Morning Edition from NPR News.
Herzlichen Dank, liebe Haus.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, nous naviguons entre l'Europe et l'Afrique avec deux rendez-vous en même temps. Le mini-sommet ce soir qui doit entériner, acter la fin de l'opération Barkhane et sa refonte. Et puis demain commence le sommet Union Européenne et Union Africaine à Bruxelles. Le Sahel, évidemment, c'est l'un des sujets évidents entre les deux continents, mais pas seulement. Et on y vient tout de suite. Le bruit du monde ce soir est en Irak où Lucille Wasserman a pu suivre une mission antiterroriste destinée à prévenir le retour de Daesh dans certaines poches du pays. Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Jérôme Cadet a trouvé des migrants qui se cousent la bouche entre le Guatemala et le Mexique. Un chanteur indien qui vient de mourir et rend tout le pays terriblement triste. Et puis vous ferez connaissance du moustachu qui joue du curling au JO de Pékin. Une vraie personnalité. 18h50, c'est le cinéma en VO et Corinne Pellissier. Les amateurs de jeux vidéo connaissent bien Uncharted. Et bien désormais, c'est un film. À 18h55, le monde d'après de Cyril Sauvageau. Ce soir, les deux premiers ministres pour un seul fauteuil, la Libye qui replonge dans la crise institutionnelle. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Dès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Bakary Sambé.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur, on vous entend avec un petit décalage mais ça va le faire, au Centre d'études des religions de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Vous êtes aussi directeur régional du Timbuktu Institute. Je le disais, Monsieur Sambé, se tient aujourd'hui un mini-sommet africain avant le sommet Europe-Afrique de demain. Il sera donc officiel, l'opération Barkhane s'est terminée. On sait qu'un redéploiement dans les pays voisins est au programme. Moi je voudrais savoir comment vous, ce que vous dites vous, est-ce que nous partons ou est-ce que nous sommes chassés, selon vous? Quel terme employez-vous?
Oui, je pense que ce sommet arrive à un moment crucial où, en même temps, sur le continent, il y a beaucoup de remous, notamment sur la présence militaire française. Mm-hmm. Et à partir de ce moment-là, aussi, ou en France, il y a une campagne présidentielle, mm-hmm, quand même, qui influe sur l'agenda africain et sahélien d'Emmanuel Macron. Donc, en marge du sommet, il y a du sommet Union africaine, Union européenne, il y a ce sommet qui se tiendra à Paris, avec des chefs d'État de la région, et non des moindres, ceux du G5 Sahel, en l'exception
sauf qu'il en manque
deux, du président du Mali et du Burkina Faso. Donc, nous sommes devant ce calendrier-là assez chargé sur l'échiquier africain. Maintenant, tout dépendra de ce qui sortira de ce sommet, mais on sait d'ores et déjà, ou on imagine, une forte déclaration d'Emmanuel Macron sur un retrait éventuel de Barkhane du Mali, et cela va inaugurer une nouvelle ère dans la région, si l'on sait l'implication de la France dans la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la criminalité dans tous ces pays du Sahel.
Alors justement, pour inaugurer une nouvelle ère, Bakary Sambé, quelles sont, parce qu'on sait bien les solutions qui peuvent y avoir, on sait le repli vers le Niger, on sait aussi qu'on regarde aussi un peu plus au sud, qu'est-ce que vous diriez, vous, qu'il ne faut surtout pas refaire pour que cette présence, on va dire, refondu aujourd'hui puisse désormais fonctionner.
Je pense que récemment, le Timbuktu Institute a publié un papier pour dire qu'il ne faut pas reproduire les erreurs commises au Sahel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France, qui est arrivée à ce niveau de relation le plus bas possible, mm-hmm, quand même, avec le Mali, avec les relations exécrables entre la junte et la diplomatie française, je crois qu'aujourd'hui, il faudrait véritablement une communication efficiente sur sa présence. Parce que rappelons-le quand même, aujourd'hui, c'est quand même ces pays africains qui vont demander qu'il y avait la présence de la France avec Serval, après avec Barkhane, pour un appui logistique, un appui stratégique au G5 Sahel. Et comment on a pu arriver à une situation où les populations semblent dire qu'elles ne veulent plus de la présence de l'armée française? Je pense qu'il y a un déficit de communication criard au niveau de la diplomatie française, au niveau de l'armée. Je m'explique parce que en fait, la diplomatie française s'est très longtemps accentuée sur une diplomatie de représentation, mmh, négligeant la société civile. Une diplomatie complètement collée aux élites de ces pays-là, qui sont aussi des élites rejetées par les jeunes. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, il était inconcevable qu'une opération aussi importante que Barkhane et son utilité dans la région, dans la lutte contre le terrorisme, le rôle très important joué par la France dans cette lutte-là, qu'il puisse pas avoir de communication efficiente. Ça, je pense que il faut réparer cela. Il faut véritablement aussi des actions civilo-militaires. Les populations transfrontalières très souvent souffrent de mesures sécuritaire draconienne tout en ayant le sentiment de vivre en insécurité. Mmh. C'est-à-dire il y a un achoppement entre les conceptions internationales de ces interventions et les perceptions locales, et sur le plan de la communication, sur le plan aussi du discours tenu à l'égard des États africains, mais aussi des sociétés civiles. Parce qu'il est en fait désormais que les sociétés civiles africaines se sont emparées de la question sécuritaire, mmh. ce qui est une nouveauté à inclure dans le mode de communication que la France va devoir adopter dans cette nouvelle situation.
Est-ce que ça veut dire, selon vous, Monsieur Sambé, que la France, au fond, s'est contentée de peu de choses, pardon, au Mali en matière de démocratie, donc n'a pas voulu voir des élections plus ou moins truquées, n'a pas voulu voir à quel point la présidence Keïta était moribonde? Est-ce que vous diriez ça aussi? Pensez-vous qu'il aurait donc fallu mieux comprendre et peut-être même négocier avec ce nouveau régime militaire, acter en tout cas sa prise de pouvoir, lui parler et tenter le deal avant d'en arriver là où nous sommes aujourd'hui?
Non, moi je reste sur les questions, sur les positions de principe. Je pense que c'est vrai, ce n'est pas seulement la France, ce sont les puissances occidentales de manière générale qui, ces dernières années, sous la pression de l'arrivée des Russes, des Chinois et d'autres puissances rivales, ont sacrifié la plupart de leurs principes sacro-saints sur l'autel des intérêts stratégiques immédiats. Mmh. Et c'est vrai que depuis plus d'une dizaine d'années, il y a aucun pays européen qui a invalidé une élection. Mmh. On se contente du peu. Et que maintenant, ce discrédit qui a été à l'origine de ce qu'on appelle les vents défavorables à la démocratie dans la région, poursuit ces pays-là. C'est comme l'incohérence qu'il y a aujourd'hui entre le fait de ne pas inviter le président Burkinabé et le militaire Goïta, mais d'inviter Mahamat Déby du Tchad. Mm-hmm. Ce sont ces incohérences-là que la société civile ne comprend pas et que petit à petit, on glisse vers tout un ensemble de communications. Et si l'on sait tous les efforts que les Russes concentre aujourd'hui sur la désinformation en critiquant la France, en usant des réseaux sociaux, sur son rôle dans le passé du continent, etc. Et je pense que dans ce contexte-là, une communication efficiente, mais aussi des postures claires par rapport aux autorités de la région donnerait plus de visibilité, en tout cas plus de crédibilité à l'action de la France, aussi bien pour la restauration de la démocratie que pour la lutte contre le terrorisme.
Est-ce que ça veut dire que vous avez une crainte en creux, parce qu'on voit bien que le repli va se faire vers le Niger probablement, est-ce que vous avez une crainte que la situation puisse se retourner à nouveau contre la France et qu'on se retrouve avec une population au Niger qui se retournerait contre la France, qui ne serait pas d'accord au fond avec ce qui va se passer, ce qui risque de se passer dans les mois qui viennent? Est-ce qu'il y a cette crainte?
Oui, il y a un paradoxe. Au moment de ce redéploiement, nous sommes des coopérations sécuritaires que les pays africains vont affirmer aujourd'hui. Ils vont affirmer la volonté d'être en coopération sécuritaire avec la France, alors que sur le continent souffle un vent puissant de souverainisme, de demande de souveraineté. Et avec la désinformation de la part de la Russie sur les réseaux sociaux et d'autres puissances contre la France, qui a des contraintes majeures, comme je le dis souvent, la difficulté pour la France au Sahel, c'est qu'elle est constamment contrainte à gérer l'urgence et l'histoire en même temps. Mm-hmm. À partir de ce moment-là, en l'absence d'une communication claire, mais aussi en l'absence de position claire face aux dérives antidémocratiques de certains pouvoirs africains, et ça rendra de plus en plus flou cette action-là. Et malheureusement, je ne suis pas très rassuré de la réussite de ce redéploiement, d'autant plus que des voix s'élèvent déjà dans la société civile, mais aussi plein de mouvements populistes. Vous savez, c'est dans l'air du temps, le populisme aussi bien d'extrême droite chez vous que chez nous, sous les tropiques aujourd'hui, qui font que la tâche va être extrêmement difficile. La France essaie d'européaniser l'initiative par Takuba pour effacer un peu la France mise en avant avec tout son histoire, mais les partenaires européens ont été jusqu'ici assez frileux. Peut-être que la solidarité récente de l'Allemagne et même des Danois vis-à-vis de la France suite aux altercations avec le Mali peuvent donner un peu d'espoir à ce que les partenaires européens s'engagent un peu plus à côté de la France.
Alors on va y venir effectivement à Takuba, donc cette force européenne qui est quand même restée assez embryonnaire, et à ce qui peut se passer derrière. Je voudrais juste qu'on s'interrompe deux petites minutes, Monsieur Sambé, pour aller justement au Burkina voisin, qui lui aussi plus récemment a eu son coup d'État. Le nouvel homme fort du Burkina a même été investi président, c'était aujourd'hui même. Le Burkina dans l'ombre de la crise malienne, qui est de loin le pays le plus frappé par le djihadisme au Sahel. La majorité du pays est sous le contrôle de certains groupes armés, des attaques qui sont quotidiennes. Je voudrais que vous écoutiez ce reportage de Gilles Gallinaro et de Claude Guibal qui se sont rendus au nord de Ouagadougou, à Kaya, en zone rouge, à la rencontre des gens déplacés par les attaques terroristes.
Nous sommes au district sanitaire de Kaya.
Certains matins, en arrivant au travail, Issa Sawadogo, infirmier chef du centre de santé du secteur 6 de Kaya, s'arrête, saisi.
Il y en a trop. Il y a des gens qui viennent des fois, ils n'ont pas mangé il y a 3 jours. Il y a des gens qui sont victimes des violences sexuelles par les hommes armés non identifiés. Il y a des gens, ils ont vu des scènes terribles, horribles. Ces gens-là, quand ils viennent raconter certaines choses, vraiment, c'est difficile à supporter. Donc ces gens-là, on les aide avec la psychothérapie. Et au fur et à mesure, ils récupèrent un peu, un peu.
Une poignée d'années, et Kaya, paisible chef-lieu du centre du Burkina Faso, a vu sa population tripler sous l'afflux des déplacés venus de tout le pays.
Donc ici, c'est une salle de consultation prénatale.
Oui, moi c'est Lucienne Sawadogo, sage-femme au secteur 6 de Kaya. Il y a certaines femmes qui sont venues enceintes sans connaître leur conjoint. Ça veut dire qu'elles ont été violées. Elles arrivent ici, tu demandes le nom du partenaire, elle est là, elle commence à larmoyer. Et d'autres viennent ici, l'âge de la grossesse est au 6e mois, 7e mois de leur grossesse sans suivi.
Salle d'accouchement.
Dans la salle du fond, sur des matelas fatigués, deux jeunes filles tordues par les contractions. Il fait chaud. Celles qui ont accouché hier sont allongées dans la cour, à l'ombre des arbres. Dans le couloir, Tchougou Sawadogo a replié son corps sur son ventre à peine arrondi. Elle est arrivée il y a 2 mois. Son regard est figé, éteint, comme mort.
Ils sont venus tuer nos hommes et brûler nos maisons. Tout le village a fui, à pied, sur la route. Mais là encore, on a été arrêtés. Ils ont pris toutes nos bêtes. Quand ils voient un homme, ils le tuent. La route a été dure, mais on a pu arriver ici, même si on ne sait pas ce que certains de nos hommes sont devenus. On veut que la paix revienne pour retourner chez nous, car ce n'est pas facile de ne rien faire, de dépendre de quelqu'un pour pouvoir manger.
Les premiers groupes armés ont gangréné tout le Burkina Faso, terrorisant les campagnes, encerclant les villes. Wenpuire Sawadogo, c'est la faim qui l'a chassé de son village encerclé, sans pouvoir être ravitaillé quand tous ceux qui essayaient de sortir cultiver les champs étaient attaqués. La fuite, Awa Tamboura s'en souvient aussi.
3 jours et 3 nuits, on a marché, on a couru pour arriver ici, avec les hommes et les enfants. On a tout laissé derrière nous. On est tous en vie, mais mon mari et mes enfants sont partis vers les mines d'or pour chercher du travail.
Là, les fers à béton des nouvelles salles en construction.
C'est les travaux d'extension de la maternité.
Ici, la canalisation construite avec l'aide de la Croix-Rouge internationale, le congélateur alimenté par les panneaux solaires. Pouvoir enfin conserver les vaccins, Kaya manque de tout. Le personnel soignant ne reste guère, éprouvé par les conditions, le rythme incessant.
On a un gros boulot. Par mois, on peut avoir 6 000, 8 000 consultations, suivies de grossesse. 800, 900, 1000 accouchements, 250. Les enfants, on peut vacciner 1 500, 2 000 le mois. Les gens viennent pour un peu se retrouver à un refuge. Leur dignité, ils ont perdu leur dignité. Si aujourd'hui on dit que c'est fini, dans 48 heures, la ville va se vider à moitié. Et ils ont besoin de rentrer chez eux.
Rentrer chez soi, l'espoir de plus d'1,5 million de Burkinabés.
Gilles Gallinaro et Claude Guibal pour leur reportage. Nous sommes toujours avec Bakary Sambé qui est avec nous depuis le Sénégal, directeur régional du Timbuktu Institute. Quand on entend ça, monsieur Sambé, on se dit qu'il y a un vrai risque djihadiste de toute façon, dès lors que le Burkina, là on le voit, le Mali est désormais seul, sans appui militaire, sans effet dissuasif. Vous avez parlé de Takuba tout à l'heure, la force européenne qui est restée un peu embryonnaire. Y aura-t-il un Takuba bis? Est-ce que c'est ça la clé finalement dans cette partie du monde-là? Et à quoi doit ressembler ce Takuba bis?
Oui, il y aura certainement un Takuba bis, mais avec quelle adhésion des partenaires européens? Mais encore une fois, depuis des années, nous alertons dans la région sur la militarisation à outrance de la lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire que la France et ses partenaires européens n'ont jamais compris qu'il fallait scinder la problématique en deux, c'est-à-dire mener une action de lutte contre le terrorisme avec des moyens militaires, mais qui vise l'élimination des cibles. Or, les cibles peuvent se régénérer. Ce qu'on a raté au Sahel, c'est la prévention de l'extrême violent. C'est-à-dire qu'on s'est attaqué aux symptômes de mal profond qu'était le terrorisme en oubliant les racines de ce mal-là, que sont la pauvreté, la malgouvernance, le mal-développement, toute cette misère que nous avons entendu relayer par les populations elles-mêmes. Et je pense que tant que ce terreau-là n'est pas véritablement traité, on sera encore dans des processus infinis de radicalisation. D'ailleurs, il y a eu le débordement de l'épicentre malien, puis le débordement de l'épicentre vers le Burkina Faso, qui était le dernier verrou que les djihadistes voulaient faire céder pour arriver sur les pays côtiers. Aujourd'hui, toute la crédibilité des opérations militaires, même si c'est au sein d'un Takobabis, ça dépendra de deux choses essentielles. Premièrement, l'adhésion des États et des populations locales, ce qui n'est pas une mince affaire. La deuxième chose, c'est que qu'on s'inscrive pleinement dans ce nexus sécurité et développement pour que véritablement face à la lutte contre le terrorisme, il faut certes gagner cette guerre contre les terroristes, mais il faut que ces puissances étrangères aussi gagnent la paix avec les populations locales, ce qui n'est pas évident.
Et du coup, quand je vous entends, Monsieur Sommé, je me demande si c'est l'Europe qui vient au secours au fond de la France vacillante là, dans cette partie du monde, si la France est même un caillou dans la chaussure de l'Europe, si ce serait pas plus facile au fond pour une force européenne, comme vous le disiez, avec l'adhésion des populations, évidemment, que d'avoir la France en première ligne.
Oui, la France cherche à européaniser cette intervention. On le voit, c'est très clair. Mais aussi, je pense que il faut cette force européenne, mais vous savez comment ça fonctionne au niveau de l'Union européenne. Dès qu'il s'agit d'une question sahélienne, ouest-africaine, on pense que la France a une valeur ajoutée au regard de son histoire, de ses relations, etc. Mais ce qu'il faudrait, l'idéal, serait que les pays africains arrivent à ne plus avoir besoin de ces interventions militaires. Or, on voit d'un côté un discours contradictoire des chefs d'État africains qui tiennent un double discours, tel que ça a été relevé à Pau, en disant que nous ne pouvons rien faire, etc. Mais en même temps, ces présidents continuent à demander cette aide-là. Alors que sur le continent, il y a plusieurs choses à faire. Premièrement, l'erreur stratégique qui a consisté à extraire le Sahel central du reste de l'Afrique de l'Ouest, ça a dépossédé une organisation comme la CEDEAO, la question sécuritaire, la force africaine en attente, qui est toujours en attente, comme le dit son nom, avec un défaut d'opérationnalisation. Et au Mali, au début de la crise, rappelons-le, lorsque les pays africains de la CEDEAO s'étaient engagés, in fine, ils ont fait appel à la France, parce que par défi d'investissement suffisant sur la sécurité, l'absence de moyens. Et vous savez, on dit, il y a une expression bien sénégalaise qui dit que ceux qui ne peuvent pas se séparer n'ont qu'à aller ensemble. Mais dans ce aller ensemble-là, je pense qu'il va falloir des signaux plus rassurants. Il va falloir regagner la confiance, non seulement avec les partenaires africains, mais avec les populations locales. Et aujourd'hui, ce n'est plus évident. Il y a certes les terroristes, mais aussi il y a toute cette campagne de désinformation avec la présence de Wagner sur les réseaux sociaux. Communication sur laquelle la France a pris énormément de retard, comme je l'ai dit, longtemps recroquevillée dans une diplomatie de représentation classique, alors que nous étions à l'ère de l'influence. Aujourd'hui, ça se voit sur la manière dont l'opinion publique africaine est complètement gagnée par cette désinformation, mais aussi avec des choses quand même qui ne relèvent pas seulement de la désinformation, mais avec les conséquences de l'échec des options militaires qui, à mon avis, n'ont pas pu arriver à bout du terrorisme. Comme je l'ai dit, il faut s'attaquer aux causes structurelles. On n'a jamais vu une Kalachnikov tuer une idéologie. C'est par l'éducation à la paix, par l'éducation, par le développement, par les investissements massifs, que l'on arrivera à trouver le développement et la paix sur le continent.
Et ce sera peut-être l'objet d'ailleurs de la réunion de Bruxelles avec ce chèque, si j'ose dire, de 150 milliards d'investissements que l'Europe a prévu d'envoyer vers l'Afrique. Ce sera l'occasion d'y revenir et d'en reparler. Bakary Sambé, directeur régional du Tibountou Institute, merci beaucoup de votre passage dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Sintès. Sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde. Ça se passe en Irak, tiens, dans une mission spéciale antiterroriste pour prévenir le retour de Daesh, cette fois une mission à laquelle Lucille Wasserman a pu assister. Et puis la troupe qui nous emmène jusqu'à 19h sous les radars, Jérôme Cadem.
Ce soir, le roi des jeux d'hiver n'est pas le français Quentin Fillon-Maillet, mais un joueur de curling américain à moustache.
Et à grands cheveux aussi. À tout à l'heure. Le cinéma en VO, Corinne Pellissier, bonsoir.
Bonsoir. Eh bien, c'est un jeu vidéo Uncharted sur PlayStation qui devient un film. avec Tom Holland dans le rôle du héros.
Le monde d'après, Cyril Sauvageau, bonsoir à vous Cyril.
Bonsoir, on essaiera de s'y retrouver dans la crise politique qui empoisonne encore et toujours la Libye, 11 ans pile après le début du soulèvement contre Kadhafi.
Allez, à tout de suite tout le monde, puisqu'on a passé du temps en Afrique, restons-y, tiens, voici Blik Bassi, le Camerounais, sur France Inter.
Njayeme aralem pleni kimekwem Nsangya sang yani Njayeme aranu pleni kimembu Kwema sang yani Njayeme 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 Njayeme
Ce soir est en Irak. Nous avons parlé ici même tout récemment du retour de Daesh dans certaines poches. On se souvient bien de leur action spectaculaire dans une prison au nord de la Syrie. En Irak, les missions antiterroristes se sont multipliées ces derniers jours pour contenir le retour des djihadistes. Et Lucille Wasserman a eu accès, un accès exclusif à l'une de ces missions. C'est elle qui raconte.
La nuit tombe sur le quartier général des forces antiterroristes irakiennes et dans une salle de réunion, une vingtaine de soldats en tenue de combat noir répètent le plan à suivre pour la mission de cette nuit.
L'ennemi est un chef d'équipe. Il utilise des engins explosifs improvisés contre les forces de l'ordre pour les assassiner et il enlève des citoyens qui ont de l'argent pour les extorquer.
Après plusieurs mois d'enquête, ces hommes s'apprêtent à partir pour arrêter un Irakien suspecté d'appartenir au groupe État islamique. En bout de table, le général conclut.
Bien, c'est clair pour tout le monde. Alors c'est parti.
À l'extérieur, une soixantaine de soldats sautent alors dans les véhicules blindés qui les attendent en rang, direction le nord de Fallujah. Le récent regain d'activité du groupe terroriste en Syrie voisine fait craindre un effet cascade sur l'Irak. Les opérations se sont donc multipliées ces derniers jours. Dans l'un des véhicules, les chefs de mission regardent une carte satellite sur leur téléphone portable.
Ok, donc on va partir d'ici et on lance l'intervention ici. Il faut faire attention car on n'y est pas et on ne l'a pas vu de nos propres yeux, ok ?
La cible approche, les blindés éteignent alors leurs phares et les premières lignes se lancent à pied à l'aide de vision nocturne, puis interviennent, l'arme haute, prêt à tirer. L'homme est bien présent, il est immobilisé dans un coin de la pièce principale. Les soldats fouillent alors le domicile.
On vient de lui confisquer son portable. On va pouvoir faire des recherches dessus. Aucune arme n'a été trouvée, mais c'est une ferme ici. La planque est sûrement ailleurs.
Les forces armées lui glissent un sac en tissu noir sur la tête, puis l'embarquent. Impossible de vérifier si le suspect est bien responsable des crimes dont il est accusé. Ce sera la justice de le décider. Alors que la mission se termine ici pour ces combattants qui disparaissent une nouvelle fois dans la nuit. Quelques jours après, nous avons repris la route vers cette localité pour rencontrer les habitants. L'un des chefs de ce village a accepté de nous recevoir pour nous parler du niveau actuel de la menace djihadiste. Il nous accueille dans un large salon, vêtu d'une tunique verte, et fait glisser les perles de son sepha, le chapelet musulman, entre ses doigts.
Daesh a encore des cellules dormantes ici. Ils essayent de revenir, de réunir leurs membres, de recruter de nouvelles personnes. Ils viennent beaucoup de la frontière syrienne.
Mais ce chef de tribu ne veut pas être alarmiste. La situation sécuritaire s'est largement améliorée depuis la fin de la guerre contre le groupe en 2017, dit-il.
Les attaques se déroulent surtout dans la région de Diyala, parce qu'il y a des montagnes et que c'est compliqué pour les forces de sécurité d'y opérer. Donc Daesh s'y cache. Mais ici, à Anbar, la situation s'est vraiment améliorée et les tribus coopèrent pleinement avec les forces de sécurité pour que ça continue d'aller en ce sens.
Un avis partagé par les habitants à qui nous sommes allés parler dans un petit marché du centre-ville. Comme Adnan, 27 ans.
Aujourd'hui, si on entend parler de membres de Daesh, on va directement aller porter plainte auprès des forces de sécurité. La situation n'est pas du tout la même qu'en 2014.
Dans les shops d'à côté, Mohamed, la cinquantaine, rappelle qu'il faut toutefois rester vigilant.
Vous savez pourquoi beaucoup de jeunes ont rejoint Daesh dans le passé ? Parce qu'ils n'avaient pas d'emploi et qu'on leur promettait un salaire. Or, aujourd'hui, il n'y a toujours pas de travail. Donc, c'est facile pour Daesh de les recruter.
Un rappel que le groupe ne prospère pas seulement par les armes et qu'il faudra bien plus que des troupes antiterroristes compétentes pour véritablement contenir la menace djihadiste dans le pays.
Lucille Wasserman pour le reportage en Irak. Merci beaucoup. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars. Et c'est Jérôme Cadet. Et Jérôme, nous sommes à la frontière entre le Guatemala et le Mexique.
Oui, dans la ville de Tapachula, au sud-ouest du Mexique, dans l'état du Chiapas, une ville prison, la plus grande prison pour migrants des Amériques, selon une ONG sur place, le Centre pour la Dignité Humaine. Au premier semestre 2021, 147 000 sans-papiers y ont été placés en détention. Des migrants qui rêvent évidemment de rejoindre les États-Unis, mais ils sont bloqués par le gouvernement mexicain, gouvernement de gauche, qui pour les contenir a déployé son armée, plusieurs milliers d'hommes à la frontière. Alors hier, pour attirer l'attention sur leur lutte, un groupe d'une dizaine de migrants s'est cousu la bouche avec du fil devant les locaux de l'Institut National de Migration. Ici, Patricio Peralta, originaire du Guatemala voisin. Nous allons nous fermer la bouche, dit-il. Nous allons coudre là, là, là et là. C'est pour notre grève de la faim, pour qu'ils nous écoutent enfin. Un exemple, hier, ils m'ont donné un papier. Alors je suis allé à la COMAR, la Commission pour les réfugiés. Et là-bas, ils m'ont dit que non, ça n'avait rien à voir avec l'immigration. Voilà, Patricio Peralta est l'un de ces milliers de migrants bloqués là depuis des semaines, voire des mois. Ils sont à eux seuls un résumé des conflits de la planète. Il y a évidemment des réfugiés venus d'Amérique centrale, mais également d'Haïti, voire d'Amérique du Sud, du Venezuela par exemple, mais aussi de beaucoup plus loin, du Yémen, d'Iran ou de Palestine. L'an dernier, des centaines de milliers de migrants ont traversé le Mexique. 131 000 avaient sollicité l'asile, c'est deux fois plus qu'en 2019.
L'Inde, Jérôme, pleure l'une de ses stars de la chanson.
Bappi Lahiri, 69 ans, était l'une des stars de Bollywood, surnommé le roi du disco. Il s'est éteint hier soir à Bombay à l'âge de 69 ans.
Ah oui, ça c'est...
Ça vous dit quelque chose ?
Pas du tout.
Pas du tout. Moi non plus.
En revanche, Cyril Sauvageau qui est arrivé dans le studio, ça lui dit complètement.
J'ai l'impression que c'est dans sa playlist. Ouais. Alors Lahiri doit sa célébrité au cinéma indien qui fait la part belle, on le sait, à la musique et à la danse. Il a signé les bandes originales de nombreux films dans les années 70 et 80, ce qui a contribué à le faire connaître à l'étranger. En 1995, il collabore avec la chanteuse britannique Samantha Fox sur le film Rocker Dancer. Et puis en 2015, avec le rappeur...
Film inoubliable, rappelons-le.
Oui, bien sûr, dont vous nous ferez le résumé un soir prochain. 2015, en revanche, collaboration avec Snoop Dogg. Ah. Il faut dire qu'avec ses grosses chaînes en or et ses lunettes de soleil, Lahiri avait un peu de l'esthétique des rappeurs US. Le premier ministre indien Narendra Modi lui a rendu hommage aujourd'hui. Toutes les générations pouvaient s'identifier dans ses œuvres, dit-il. Il faut dire que Lahiri était aussi membre de son parti, le BJP.
Ah, bah voilà. Pour finir, elle est la moustache, Jérôme, la plus connue de Pékin.
Celle de l'Américain Matt Hamilton, champion olympique en titre de curling. Vous savez, la pétanque sur glace. Hamilton défend son titre en ce moment aux Jeux Olympiques et son look fait fureur. Cheveux longs, moustache et sneakers Nike rouge, orange et verte aux pieds, sans oublier un léger embonpoint qui laisse les spécialistes sceptiques, eux qui nous expliquent tous les 4 ans que le curling nécessite une préparation physique intensive. Hamilton donc raillé sur les réseaux sociaux, il s'en amuse, j'adore être au cœur des débats, dit-il, et il profite de sa notoriété pour plaider les bonnes causes, comme dans cette vidéo où il apparaît vêtu d'un t-shirt barré d'une moustache. Salut les amis, je suis Matt Hamilton, champion olympique de curling, médaillé d'or en 2018, et depuis je travaille avec cette organisation incroyable, Stash Strong. Il récolte et donne beaucoup d'argent pour la recherche contre le cancer, une association fantastique qui ne prend pas un centime pour ses employés et ses volontaires, et nous avons un nouveau partenariat où je vais faire don de mes cheveux aux enfants. Nous allons récupérer de l'argent pour faire pas mal de choses et construire directement avec la fondation. Voilà, je sens que vous êtes désormais des fans absolus de curling, c'est l'effet Hamilton. Donc vous ne manquerez pas la finale du tournoi homme, c'est vendredi matin à partir de 7h05 précise. À ce stade, les Américains sont quatrièmes.
Eh ben, mais avec plaisir, vous savez que tous les 4 ans, on est tous fous de curling.
Mais oui, c'est donc, une passion.
C'est une passion, absolument. Jérôme, à très vite, merci beaucoup. Vous partez avec les Heels, Strawberry and Popcorn. C'est sûrement pour fêter le retour du popcorn au ciné, allez savoir. Strawberries and Popcorn sur France Inter. Tant qu'on est dans le popcorn, tiens, cinéma.
France Inter. Un jour dans le monde.
Corinne Pellissier, voici donc une franchise que les amateurs de jeux vidéo connaissent bien. Ça s'appelle Uncharted, il paraît que c'est un phénomène. 40 millions d'exemplaires vendus dans le monde, il y a une version animée, il y a des comics. Et donc, désormais un film avec Tom Holland dans le rôle du héros qui lui-même s'appelle Nathan Drake. Il débarque donc aujourd'hui sur les écrans. Pour les fans, une seule question qui vaille, est-ce que l'adaptation est à la hauteur? Alors
Ah, c'est vrai que les amateurs de jeux vidéo ont souvent été déçus des adaptations au cinéma. Assassin's Creed, Lara Croft, Resident Evil, Mortal Kombat, des univers déformés, trop d'effets, une histoire pas toujours en rapport avec le jeu. Autant dire qu'en s'attaquant aujourd'hui à l'un de ses jeux les plus populaires sur PlayStation, le groupe Sony s'est mis une grosse pression. Il aura fallu 10 ans de travail pour réunir la bonne équipe et surtout le bon réalisateur. Le dernier en date s'appelle Ruben Fleischer. Vous connaissez peut-être Zombieland, dont il a réalisé deux numéros. C'est un réalisateur gamer et sur le papier, eh bien, ça fait toute la différence.
Regarder passivement un jeu au cinéma peut devenir assez vite barbant. Pour moi, il est très important, bien sûr, que le film s'inspire du jeu. Mais il ne faut pas chercher à tout retranscrire, car l'expérience ne sera jamais la même que quand vous jouez. Et puis, je pense qu'il est aussi très important de continuer à inventer des histoires. Avec Tom Holland pour incarner Nathan Drake, c'est une version plus jeune du héros, qui offre à la fois de la nouveauté aux joueurs qui n'ont jamais testé cette aventure et à tous ceux qui ne connaissent pas Uncharted, qui est juste un film d'aventure incroyable.
Alors le résultat est assez conforme à l'esprit du jeu, c'est un pur film d'action avec des effets spectaculaires dans tous les sens, pas toujours très subtils. Mais on ne passe pas un mauvais moment avec Tom Holland dans la peau donc de ce Nathan Drake, sorte de version moderne d'Indiana Jones.
Alors Sony espère, Corinne, évidemment que le film va marcher, hein, pour lancer une nouvelle franchise et même réaliser l'un des mariages les plus attendus de l'année.
Oui, car derrière l'adaptation au cinéma d'Uncharted, il y a le désir de réunir les deux branches de production de Sony, le cinéma et le jeu vidéo, pour en faire l'un des nouveaux géants du divertissement, un peu sur le modèle de Disney, avec les adaptations de comics. Uncharted n'est donc qu'un début. Asad Kizilbash, le patron de PlayStation Productions, a déjà sur son bureau de nombreux projets à l'étude ou en développement.
Au total, nous travaillons sur 10 projets à la fois, à des stades de développement différents. Mais nous avons déjà lancé The Last of Us pour la télé. La série se tourne en ce moment. Il y en aura une aussi adaptée de Twisted Metal, et un film dérivé de l'univers de Ghost. Pour moi, il est évident que la plupart des bonnes histoires aujourd'hui proviennent de l'univers des jeux vidéo. Chez PlayStation, on ne se contente pas depuis 25 ans de produire des jeux, on invente des histoires, des personnages, et on recrute pour ça les meilleurs, des créatifs qui connaissent les jeux et s'en servent. On s'inspire en fait beaucoup de la collaboration entre Disney et Marvel. Nous aussi allons devenir un géant et un incontournable du divertissement.
Alors voilà, les ambitions sont posées. Sans doute, elles vont formater encore un petit peu plus le cinéma hollywoodien entre super-héros, jeux vidéo. Il va falloir choisir son camp, Fabienne.
Ben moi, je suis dans la team super-héros, mais c'est sûrement que je suis vieille.
Avec Tom Holland, c'est bien, on peut faire les deux.
Avec Tom Holland, on peut faire les deux, absolument. Le film du jour, en attendant, s'appelle donc Uncharted. C'est ça aujourd'hui, ce mercredi, sur les écrans. Et Corinne Pellissier, je vous remercie.
Fabienne Saint-Hès, le 18-20.
Le monde d'après, ce soir, c'est Cyril Sauvageau. Cyril, la Libye se retrouve à nouveau et depuis quelques jours avec deux premiers ministres au lieu d'un. La lutte fratricide pour le pouvoir entre deux camps rivaux, voilà qui rappelle de bien mauvais souvenirs aux Libyens.
Oui, c'est un peu retour à la case départ, comme si rien ne s'était passé depuis un an, depuis l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement d'union nationale qui était chargé de stabiliser le pays après des années de guerre civile. Le premier ministre nommé l'an dernier par intérim, Abdelhamid Beyba, avait une feuille de route, l'organisation d'élections dans le courant de l'année 2021. Mais le défi s'est avéré insurmontable. Trop d'insécurité. Les miliciens armés ont refait leur apparition dans les rues de Tripoli. Impossible de sécuriser les bureaux de vote. Et puis trop de tensions politiques, de rivalités entre les factions de l'Ouest et de l'Est du pays. Tout ça a fait capoter le processus. Résultat, une présidentielle reportée à des jours meilleurs, un rendez-vous manqué, une immense frustration pour les Libyens qui s'étaient inscrits très nombreux sur les listes électorales. La Libye cherche toujours une issue à ces conflits internes qui la minent depuis la chute du maréchal Kadhafi. D'ailleurs, ça fait précisément 11 ans demain que les Libyens ont commencé à se soulever contre leur ancien dictateur.
Et donc Cyril, depuis quelques jours, un deuxième Premier ministre a fait son apparition.
Un Premier ministre parallèle en quelque sorte. Il s'appelle Fatih Bachaga, c'est un ex-ministre de l'Intérieur, une personnalité politique de poids en Libye. Et pour réussir ce qui s'apparente à un coup de force institutionnel, eh bien, Bachaga a noué une alliance de circonstances force avec son vieil ennemi, l'homme fort de l'est de la Libye, le maréchal Haftar, celui-là même qui rêve depuis des années d'imposer sa mainmise sur le pays. La semaine dernière, Fatih Bachaga a donc été nommé Premier ministre par le Parlement, qui est basé à Tobrouk, dans l'est du pays, dans le fief d'Haftar. Le Parlement, en effet, considère que le mandat du Premier ministre sortant est terminé, puisqu'il n'a pas réussi à organiser les élections. Le problème, c'est que le gouvernement de Tripoli refuse de jeter l'éponge. Il se réclame toujours du soutien des Nations Unies. Abdelhamid Beyba affirme qu'il ne cédera la place qu'à un gouvernement issu des urnes. La situation est bloquée et on a comme une impression de déjà-vu. Hein. En 2014 déjà, la Libye se retrouvait dirigée simultanément par deux premiers ministres rivaux, l'un à l'ouest, l'autre à l'est, avec à chaque fois le soutien de puissances étrangères, l'Égypte, la Turquie, chacune jouant sa propre carte. On sait où tout cela avait mené, à une lutte fratricide et à des affrontements meurtriers.
Alors aujourd'hui, le risque, il est bien réel, Cyril, de voir la Libye replonger dans la guerre civile.
Et l'inquiétude se porte tout particulièrement sur la capitale Tripoli. C'est là que siège le gouvernement d'union nationale et c'est là aussi que le nouveau Premier ministre Bachaga dispose de relais et d'appuis importants avec des groupes de miliciens acquis à sa cause. En Libye, les alliances sont mouvantes et pas toujours très lisibles de l'extérieur, mais il y a des signes qui ne trompent pas. Des mouvements de troupes inquiétants ces derniers jours aux abords de la capitale, des centaines de véhicules armés qui convergent vers le centre de Tripoli pour venir soutenir le gouvernement en place, pour sécuriser les lieux de pouvoir. La tension est palpable, il y a eu des manifestations massives à Tripoli, à Misrata ces derniers jours. Les Libyens en ont plus qu'assez. Ils réclament de véritables élections, ces élections libres et transparentes qu'on leur promet depuis si longtemps et qu'ils ont cru voir venir enfin l'an dernier. Hélas, la Libye risque bel et bien de retomber dans ses pires travers. Tripoli ressemble à nouveau à une poudrière sous les yeux impuissants de la communauté internationale.
Cyril Sauvageau et Le Monde d'après, merci beaucoup Cyril, bien sûr, à très vite. Nous, on reste ensemble pour le 18-20, la suite. Dans un tout petit instant, c'est Hélène Philippe pour le journal de 19h. Juste après, il y a le téléphone sonne. Merci de passer cette soirée avec nous.